Alors rassurez-vous, nous ne serons pas bavards. On ira à l'essentiel. Simplement pour dire là vraiment une impression tout à fait personnelle. Mais je pense que Georges partage mon point de vue pour avoir beaucoup écumé et continuer à écumer très régulièrement les journées d'études de l'écologue. J'ai le sentiment agréable d'avoir appris beaucoup de choses et d'avoir eu en permanence des interventions avec des éclairages différents et toujours d'un excellent niveau. Donc bravo à tout le monde, à la fois à ceux qui ont parlé, à ceux qui ont écouté de façon active avec beaucoup de participation de la salle. Donc ça, c'est important. Moi, je partirais volontiers d'une phrase que j'ai notée au vol ce matin dans l'intervention de Laurent Tessoka. C'était... Il a eu cette formule, des institutions adaptées à la réalité du terrain. Alors, de fait, il parlait peut-être davantage de formules juridiques, mais j'ai envie de transposer cette formule en disant qu'on n'a certainement pas épuisé aujourd'hui, en termes d'imagination, des structures qui conviennent aux réalités spécifiques des différents territoires, des différents domaines qu'on a présentés, qu'on a représentés aujourd'hui. J'étais en communication il y a quelques semaines avec un consultant qui est honorablement connu de la profession, qui est Pierre Franqueville, le responsable d'ABCD, et qui exécutait une mission pour le compte, je crois, du Conseil général de Guyane, ou de la DRAC Guyane, je ne me souviens plus exactement, et qui me faisait part d'une réflexion qui me paraît tout à fait intéressante et que je vous livre. Il disait, au fond, sur un territoire comme la Guyane, avec une géographie complexe, des populations très clivées, des écarts très nombreux, est-ce qu'au fond, l'unité d'intervention, c'est pas l'école? Alors, je sais que ça sonne de façon peut-être un peu provocatrice pour nous. On a été tous nourris par la distance nécessaire à entretenir avec l'école, entre la bibliothèque publique, du côté du loisir et de la gratuité, et l'école avec ce qu'elle a de normatif. Mais je me suis dit qu'au fond, c'était une réflexion qui n'était certainement pas dépourvue de bon sens, et qu'en matière de structure de lecture publique, où on a le besoin de, comme on l'a dit à plusieurs reprises, plutôt de cultiver la proximité, plutôt que le gigantisme, l'école, à l'échelle d'une commune ou d'un groupement d'habitations, peut être effectivement un bon relais. Il y a sûrement quelque chose à inventer, qui est peut-être pas généralisable partout, mais je pense qu'il faudrait revenir, réinterroger, en particulier dans ces territoires, la relation entre les professionnels de lecture publique, les enseignants et, je dirais, globalement, l'administration de l'éducation nationale. Il y a sûrement un champ d'intervention important à chercher et à essayer de ne pas plaquer des schémas métropolitains et, en tout cas, ne pas plaquer des clivages. J'étais très frappé de voir, au moins dans les deux exemples de Polynésie et Nouvelle-Calédonie, comment effectivement la bibliothèque universitaire centrale était aussi un instrument de lecture publique avec des collections de loisirs qui étaient, dans les deux cas, des institutions largement ouvertes au-delà du seul public universitaire, qui soit étudiant ou enseignant. Donc il y a sûrement à réfléchir justement à cette question des clivages ou des malédictions d'organigramme, c'est une expression que j'emploie de temps en temps, ou parce qu'on dépend de telle ou telle administration, on n'a pas le droit de travailler avec le voisin. Je crois que compte tenu de l'urgence, de la force des besoins de ces territoires, il y a sûrement à inventer des modèles un peu différents. Une autre question qu'on n'a pas du tout abordée dans la journée, on l'a fait en tout début de séance avec la petite synthèse de Georges, c'est effectivement les questions de bâtiments. Alors je me réjouis qu'il y ait des bâtiments qu'on inaugure et qui sont toujours des bâtiments ambitieux, en particulier dans le domaine universitaire, où ce que j'ai pu voir sur le terrain était en général inventif et de bonne qualité. Je crois qu'il y a toute une réflexion sur le développement durable, hein, c'est un peu à la mode, mais bon, des bâtiments avec de la climatisation naturelle, avec des modes, des matériaux utilisés qui soient effectivement des matériaux compatibles avec les climats dans lesquels sont construits ces bâtiments. Alors, il y a une réalisation que j'ai eu l'occasion de visiter en Guyane, qui est la bibliothèque, enfin la médiathèque de Kourou, qui m'a paru tout à fait intéressante à la fois sur le plan architectural, parce que là c'est effectivement un bâtiment en bois et un bois spécialement traité, donc qui est vraiment adapté à l'environnement climatique et qui dans le même temps a testé tout un ensemble de dispositions de climatisation ou de ventilation naturelle. Donc un bâtiment qui a faible consommation en quelque sorte. Hein. Donc il y a sûrement des choses à creuser de ce côté-là sur un certain nombre de réalisations. C'est vrai que beaucoup de bâtiments qu'on voit, et ça crée toujours vraiment de la peine quand on voit ces bâtiments, des réalisations intéressantes sur le plan architectural, mais qui pour des raisons de matériaux ou de conception qui sont à l'évidence trop calquées sur les modèles métropolitains, sont des bâtiments qui 2 ans, 3 ans après sont en mauvais état. Plein de taches d'humidité, d'inondations, de problèmes de fente dans les murs, etc. Donc là, il y a sûrement quelque chose à creuser. Nous, dans notre rapport, on préconise, comme le disait Georges ce matin, un guide de bonne pratique, et je pense qu'il faut le faire, parce que c'est quand même tout à fait anormal qu'on investisse de l'argent public et que, bon, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, on ait des bâtiments qui sont pratiquement à reprendre. Ce qui est apparu, je crois, dans nos débats très nettement en début d'après-midi, c'est qu'on a absolument besoin d'un dispositif spécifique sur les questions de formation. Quand je dis formation, c'est aussi bien formation initiale, préparation et passage des concours, formation continue aussi. Il y a un certain nombre de choses qui se font, hein, on n'est pas dans un terrain complètement vierge. Mais là, il y a des choses à inventer, et j'ai envie de dire qu'on a un certain nombre d'outils. On a des centres de formation, on a à un certain moment peut-être à faire avec les décideurs des calculs en disant bah, telle ou telle formule coûte, ça vaut peut-être le coup d'investir telle ou telle somme plutôt que de se lancer dans des opérations trop compliquées. Il y a sûrement quelque chose à inventer pour que vraiment cette égalité des jeunes des jeunes et des moins jeunes qui veulent passer des concours ou compléter leur formation initiale profitent au fond d'avantages comparables à ceux des populations métropolitaines. Et puis à ce propos, alors j'ai fait beaucoup d'éloges aux organisateurs et aux participants et je ne les récuse pas, mais il me semble qu'il manquait quand même un partenaire qui aurait été le CNFPT. Je pense que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu un représentant, parce que localement, avec les délégations régionales, il y a des dialogues qui se créent, et je crois qu'il faut absolument, au niveau national cette fois-ci, sensibiliser encore plus le CNFPT au fait qu'il y a des problèmes spécifiques de préparation au concours, de formation initiale, de formation post-recrutement, sur lesquels ils sont compétents. C'est eux qui ont la légitimité, en particulier vis-à-vis des élus. Alors là, je parle effectivement du secteur des bibliothèques territoriales, mais ce sont des acteurs tout à fait importants. Et puis deux petites suggestions pour terminer en ce qui me concerne. Après, je passerai la parole à mon collègue. C'est de dire que ce serait dommage que cette journée d'études soit sans lendemain, et qu'il faut peut-être imaginer un dispositif où, de manière régulière, les collègues ultramarins se retrouvent, non pas seulement pour partager leurs problèmes entre eux, ce qui est important et ce qui n'est pas inutile, mais de les partager avec d'autres collègues, parce que je crois que c'est de cette manière-là qu'on avance. Enfin, je suis pas pour multiplier les réunions et les journées d'études, mais il y a sûrement quelque chose à poursuivre dans ce domaine, parce que on se rend compte que il y a un empilement, enfin là c'est le doyen de l'inspection qui vous parle, il y a un empilement de rapports qui sont souvent des rapports, on les réalise, sans lendemain ou sans véritable suite. Il y a eu toute une série d'études. Bon, on a fait allusion aux études de Jean-Luc Gauthier-Jantès. Il y a eu les rapports de Cécile Guittard, je crois, sur la Polynésie dans les années 80, qui ont été des travaux tout à fait intéressants, menés par des professionnels de grande qualité. Mais ensuite, on a envie que les choses passent à un tour concret, qu'il y ait des décisions qui soient prises, qu'il y ait des suites qui interviennent. Donc, le fait de se voir assez régulièrement entre professionnels et avec des partenaires, sans rester fermé sur les bibliothèques, ça pourrait être une chose importante. Et puis, dernière petite suggestion, je crois qu'il faut que, et ça c'est peut-être un peu plus difficile parce que c'est encore plus institutionnel, qu'un lien plus permanent s'établisse avec le ministère de la Coopération, qui est un ministère qui n'a pas de moyens propres très très importants, mais qui dans le travail de coopération gouvernementale est le seul qui puisse porter avec légitimité la continuité d'un effort au bénéfice des territoires d'outre-mer et des départements d'outre-mer. C'est sa fonction d'origine. Ça me paraît très 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 important, parce qu'il y a un moment donné où il y a des dispositions réglementaires ou des moyens à mobiliser, et que c'est pas établissement par établissement que les choses se jouent, mais ça se joue à partir de politiques nationales qui doivent se mettre en place. Je parle du ministère de la Coopération, c'est plutôt effectivement le ministère de l'Outre-mer dont il faudrait parler, mais c'est des ministères qui changent assez régulièrement de dénomination et de délimitation de territoire. Et puis, un grand bravo, en tout cas, à ce qui a été fait par l'UAG et par les collègues du secteur Antilles de solidarité des îles à Guyane. Là, je trouve que c'est tout à fait exemplaire, et je vous trouve un peu modeste. Je pense qu'il faudrait le faire savoir davantage, parce que on dit souvent que, bon, la première émotion passée, on a un peu laissé tomber les Haïtiens, et en fait vous continuez cette solidarité avec un souci de durée. Et ça, je crois, ça me paraît très 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 important. Voilà, c'était les quelques remarques que je voulais partager avec vous en cette fin de journée. Je passe la parole à Georges.
Alors je vais prendre le relais un petit peu pour compléter, mais bon, évidemment je partage à 100% ce que vient de dire Dominique. Bon, je vais souligner un ou deux points qui me sont apparus dans la conversation, enfin dans la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Le premier, bon, on a beaucoup parlé de formation, je crois que c'est la pierre angulaire du développement, hein, de nos bibliothèques en Outre-mer. Et Dominique vient justement de souligner l'absence un peu du CNFPT. Le CNFPT, l'expérience que j'en ai eue, moi, en visitant ces départements, il est demandeur, hein, il est demandeur, mais aussi bien à La Réunion qu'à Mayotte, on m'a dit, mais les professionnels ne nous font pas de suggestions. On n'a pas de réponse à nos questions, on ne sait pas ce qu'ils demandent, on ne sait pas ce qu'ils attendent, donc on propose des programmes tout faits, métropolitains, je veux dire, des choses qui se font ailleurs, dans des régions, voilà. C'est un petit peu dommage, donc là, il y a peut-être une demande à faire du côté des professionnels, pour faire remonter les vraies demandes, ce qui correspondrait vraiment à ce qu'ils attendent sur des terrains très très spécifiques, comme on l'a vu. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est évidemment l'importance de la coopération. Bon, on vient de le voir, là, Michel Etève l'a dit, il y a posé la question crûment, et avec les universités, rien. Bon, c'est vraiment dommage, parce que quand on est sur le terrain, on voit toutes les passerelles qu'il pourrait y avoir d'un réseau à l'autre sans difficulté, et tous les domaines où on pourrait travailler ensemble. Voilà. Je reconnais un mérite immense à la BNF, hein, c'est que elle est souvent, je l'avais déjà constaté en métropole quand j'avais en charge ce dossier, elle est le révélateur et le stimulateur de beaucoup d'actions, hein, c'est-à-dire que sans elle, il y a des coopérations qui ne naîtraient pas. Et si je puis me permettre, Aline, de faire une suggestion pour La Réunion, on pourrait avoir un mouvement équivalent à celui qu'on a vu pour l'UAG, dans la mesure où cette zone, j'en ai parlé ce matin, recèle énormément de richesses partagées. J'ai un seul exemple, parce qu'on m'en avait parlé là-bas. Les archives de Bernardin de Saint-Pierre, hein, pour les Virginies, à l'île de France, c'est-à-dire ce qui est l'île Maurice aujourd'hui, sont à La Réunion, mais aussi à l'ancienne île de France. Donc il y aurait déjà pour ces deux îles du travail à faire en commun. Et je pense que là, la francophonie gagnerait, enfin bon là, les bibliothèques s'enrichiraient, et on mettrait en valeur un certain nombre de choses dont on n'a pas idée en métropole. Tout à fait. Manioc, Tout à fait, tout à fait. Il y aurait beaucoup de choses à faire, avec les Seychelles notamment, qui je pense ont aussi des moyens intéressants et importants, bon, avec les Comores, où il y avait, alors les Comores par exemple, bon, la CNFPT organisait des stages pour Mayotte et les Comores. Il y avait déjà une coopération un petit peu internationale, si je puis dire, à l'échelon de la région, ce qui était tout à fait intéressant et qui pouvait être une ouverture pour d'autres pratiques. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je partage complètement l'avis de Dominique quand il dit il faut pas laisser le fer se refroidir. Il faut remettre ça. C'était vraiment, cette journée a été plus qu'utile. On a beaucoup appris. Et je vous promets, tout retraité que je suis, que je reviendrai à une autre journée s'il y en avait une.